Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 20 mai 2022. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les ennemis savaient très bien que toute mesure ou tout complot susceptible de nuire aux intérêts de l'Iran ne resterait pas sans réponse. L'Iran, à la main haute dans le domaine des drones dans la région, a déclaré le porte-parole des forces armées iraniennes. Le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme a fait part de l'identification par la rapporteuse spéciale de l'ONU de nombreux cas de violation des droits de l'homme des Iraniens par les sanctions américaines et les pays qui les appliquent. Et le président chinois Xi Jinping a appelé les pays des BRICS à travailler ensemble pour construire une communauté mondiale de sécurité pour tous. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici maintenant les détails. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, le général de division Hossein Salami, a une fois de plus déclaré que les ennemis savaient très bien que toute mesure ou complot susceptible de nuire aux intérêts de l'Iran ne resterait pas sans réponse. Le général de division Salami a déclaré devant une foule d'étudiants de l'Université des sciences et technologies Amir al-Momenin, affiliés aux forces terrestres gardiens de la révolution à Ispahan, que les mesures décisives prises par le CGRI indiquent que tant qu'il y aura des hommes aussi honnêtes et sincères, aucune force ne pourra attaquer l'Iran. Le général Salami a ajouté que les forces terrestres du CGRI étaient une forteresse fortifiée pour défendre la sécurité nationale et préserver le pays et l'islam face aux ennemis de Dieu. Il a également noté que l'état de préparation accru du corps des gardiens de la révolution islamique et ses équipements défensifs, qui sont les meilleurs au monde, ont entraîné une baisse des estimations ou déclenchement d'une guerre militaire. L'Iran a la main haute dans le domaine des drones dans la région. Nous répondons à tous nos besoins et les forces armées iraniennes peuvent coopérer avec d'autres pays pour produire des drones de reconnaissance, a déclaré ce jeudi le porte-parole des forces armées iraniennes. Le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole principal des forces armées iraniennes, s'exprimant lors d'une interview télévisée sur la visite du chef d'état-major général au Tadjikistan, a indiqué les visites de chef d'état-major des forces armées iraniennes à l'étranger s'inscrivent dans le cadre des diplomaties défensives et de sécurité à l'échelle régionale et internationale. Il insiste que ces voyages sont porteurs d'importants acquis aussi bien pour l'Iran que pour les pays hôtes, y compris le Tadjikistan, où le général Barreri s'est récemment rendu. Il a ajouté dixit en marge de la visite du général Barreri au Tadjikistan, une usine de production de drones de reconnaissance de fabrication iranienne a été lancée dans le pays. En raison des capacités de la République islamique d'Iran dans la production de drones, cette usine ne produira que des drones de reconnaissance et sera très efficace pour notre coopération régionale bilatérale. Nous avons la main haute dans le domaine de l'industrie de drones dans la région et nous répondons à tous nos besoins de défense et de sécurité. Nous avons actuellement une coopération bilatérale et multilatérale pour l'exportation ou la production de drones de reconnaissance dans divers pays. Fin de citation. Le secrétaire du Conseil iranien des droits de l'homme, Kazem Gharib Abadi, a fait part de l'identification par la rapporteuse spéciale de l'ONU de nombreux cas de violation des droits de l'homme des Iraniens par les sanctions américaines et les pays qui les appliquent. Sur les détails du déplacement officiel d'Alena Douane en Iran, le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, Kazem Gharib Abadi, a déclaré que la rapporteuse onusienne a rencontré dans le cadre de sa visite des responsables de 30 ministères et agences gouvernementales, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le vice-président pour les affaires féminines, ainsi que les responsables du siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran. Il a ajouté que les mesures anti-iraniennes prises par les États-Unis pourraient évidemment être qualifiées de mesures coercitives unilatérales qui ont été condamnées dans diverses résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies. En visite à Téhéran du 7 au 18 mai, Elena Douane, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur la situation des droits de l'homme, a noté lors d'une conférence de presse mercredi après-midi que des décennies de sanctions avaient entièrement affecté la vie du peuple iranien et avaient particulièrement touché la partie à faible revenu de la société. Elle soumettra son rapport final au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en septembre. Sachez également que l'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU a déclaré que les mesures coercitives unilatérales violant les droits humains fondamentaux, y compris le droit à l'alimentation, provoquaient une insécurité alimentaire. Majid Tartaravanchi, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, a qualifié les mesures d'illégales, affirmant que certains États continuent de les utiliser comme une arme pour affamer la population des pays ciblés. M. Tartaravanchi a souligné que l'approvisionnement alimentaire ne doit en aucun cas être interrompu, même pendant les conflits armés. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, les sanctions de l'ONU ne devraient pas non plus mettre en péril la sécurité alimentaire mondiale. Place maintenant à la donne de liens russo-iranienne. Sur la base de ses excellentes relations avec la Russie, la République islamique d'Iran soutient tout effort visant à régler le conflit ukrainien par des moyens diplomatiques et est prêt à servir de médiateur et à aider à résoudre cette crise, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie iranienne lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux parties ont discuté de questions bilatérales, régionales et internationales, ainsi que des dernières évolutions dans les négociations entre l'Iran et les autres signataires de l'accord de 2015 à Vienne sur l'affaire nucléaire. Soulignant l'opposition de l'Iran contre l'utilisation de la guerre et les sanctions comme outil de diplomatie, Amir Abdullahian a affirmé le soutien de Téhéran à un cessez-le-feu en Ukraine et à un retour à la table des négociations. Tout en critiquant les positions non constructives des États-Unis et de l'Occident, le ministre russe des Affaires étrangères a lui aussi informé son homologue iranien des derniers développements en Ukraine et s'est félicité de toute initiative qui pousserait l'Ukraine vers des négociations. Il a également qualifié le rôle de l'Iran de constructif à cet égard. Rappelons en passant que le Congrès des États-Unis a débloqué une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine au moment où le Pentagone met en garde contre un conflit de longue durée. Au sein de ce grand paquet d'aide, 6 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. Le projet de loi, déjà validé par les élus de la Chambre la semaine dernière, n'a plus qu'à être ratifié par le président Joe Biden, qui réclamait depuis plusieurs semaines un vote rapide, sous peine de voir s'assécher l'aide à l'Ukraine. Et pour fermer le journal, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays des BRICS à travailler ensemble pour construire une communauté mondiale de sécurité pour tous. M. Xi a fait ses remarques en prononçant un discours par liaison vidéo lors de la session d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. À cet égard, il a exhorté que les pays des BRICS doivent renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération en matière de sécurité, maintenir une communication et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales, tenir compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun, respecter la souveraineté et la sécurité et les intérêts de développement de chacun, s'opposer à l'hégémonisme et à la politique de puissance, rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs, ainsi que travailler ensemble à la confrontation d'une communauté mondiale de sécurité pour tous. Merci de votre fidélité et au revoir. La Russie n'a d'autre choix que d'abattre les chasseurs israéliens. Tel est le thème de notre commentaire politique. Bas les masques. Annonce officielle de l'envoi d'armes israéliennes en Ukraine et la Russie qui se trouve face à un choix. Celui d'enrayer Israël en Syrie en abattant ses avions dans le ciel syrien, voire israélien, ou de s'attendre à voir ses navires être visés en mer Noire par les missiles Blue Spear israéliens et ses avions par la DCA Barak 8 embarqués. Le ministre israélien des Affaires militaires a officiellement annoncé la fourniture d'armes à l'Ukraine. Selon Benny Gantz, en plus d'octroyer une aide humanitaire à l'Ukraine, Israël lui fournira également une assistance militaire. Nous soutenons l'Ukraine et lui fournissons une assistance humanitaire et militaire, tout en tenant compte des aspects les plus larges des intérêts d'Israël, a déclaré le ministre israélien Benny Gantz lors d'une conférence à l'université Reichmann à Herzliya. Selon des informations non confirmées, Israël pourrait transférer à l'Ukraine plusieurs lots d'armes légères, de matériel de reconnaissance ainsi que les missiles Spike. Les experts réaffirment que les déclarations de Benny Gantz sur la fourniture d'armes à l'Ukraine pourraient entraîner une complications extrêmement graves des relations entre les parties israéliennes et russes. De plus, les médias israéliens ont récemment annoncé que les Syriens avaient pour la première fois exploité leur S-300 russe contre les avions de combat israéliens, ce qui pourrait signifier la fin de la liberté d'action d'Israël en Syrie. Mais où va la tension Israël-Russie? Les relations entre la Russie et le régime sioniste ont été marquées par de nouvelles tensions ces derniers mois, mais ce qui pourrait émerger de ces divergences aura très probablement lieu en Syrie. Il semble y avoir des signes montrant que les Russes changent de cap face aux agressions militaires israéliennes en Syrie. Un événement important et unique a eu lieu dans le ciel de Damas, alors que les médias régionaux se concentraient sur les résultats des élections législatives au Liban. Les systèmes de défense antiaérienne de la Syrie ont tiré plusieurs missiles en direction des avions de combat israéliens qui frappaient Masyaf, au nord-ouest de la Syrie, depuis la Méditerranée. Le lendemain, le chef du Centre pour la réconciliation en Syrie, affilié au ministère russe de la Défense, a déclaré que les systèmes de défense antiaérien syriens avaient abattu 16 missiles et un drone du régime israélien lors de l'attaque de vendredi dernier. Mais quelques jours plus tard, la chaîne 13 de la télé israélienne a révélé que le système de défense utilisé par la Syrie pour contrer les frappes aériennes était un S-300. Il est naturel que ce système, bien que déployé en Syrie, ne puisse fonctionner sans l'autorisation des Russes qui l'ont fourni aux Syriens. Selon la chaîne de télévision israélienne, c'est la première fois depuis des années que le S-300 réagit à une frappe israélienne. Dans la foulée, le Wall Street Journal réaffirme que le système S-300 n'a réagi pas même une fois à aucune des 400 frappes qu'Israël a menées depuis 2017 contre le territoire syrien. Bien avant cette ouverte confrontation, il y avait déjà des signes d'un changement de cap des Russes face aux attaques israéliennes contre la Syrie. Par exemple, la fin d'avril, lorsque le régime sioniste projetait de lancer une attaque contre la Syrie, la Russie, dans un geste sans précédent, a communiqué aux médias les détails de la frappe aérienne pour exprimer son mécontentement en plus de se vanter de ses puissants services de renseignement. Au début des conflits en Ukraine, Tel Aviv tentait d'opter pour une position ambiguë qui penchait plutôt vers l'Occident. Mais son spectacle a tourné court et il s'est finalement décidé à durcir le ton contre Moscou. Les responsables israéliens ont évoqué les soi-disant crimes de guerre russes en Ukraine. Ils ont voté contre la Russie aux Nations Unies et ont soutenu son expulsion du Conseil des droits de l'homme. En plus, nombreux sont les anciens officiers israéliens qui se battent contre les Russes en Ukraine et la Knesset a également accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pire encore, Israël envisage d'envoyer du matériel militaire en Ukraine. Ce sont des raisons suffisantes pour que les Russes commencent à fulminer contre Tel Aviv. Le 1er mai, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait affirmé qu'Adolf Hitler avait du sang juif sur une chaîne italienne appuyant l'idée d'un État ukrainien nazi. Ses propos, aussitôt retranscrits sur le site de son ministère, ont suscité l'indignation de Tel Aviv. Par ailleurs, Moscou a condamné fermement les mesures prises par le régime israélien à Gaza et en Cisjordanie. Combien de temps dure ce bras de fer? La Russie ne semble pas avoir l'intention de lier l'équation syrienne à la donne en Ukraine, ni de perturber le calme relatif qui règne en Syrie. Mais il est clair que Moscou cherche à réguler l'attitude d'Israël envers la guerre en Ukraine et la Syrie, en raison de sa position importante dans la perception des responsables israéliens, est une arène importante qui permettrait à Moscou d'atteindre son objectif. Ainsi, Israël poursuit ses politiques anti-russes. Moscou, lui aussi, continue de contrecarrer les frappes israéliennes en Syrie.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le ministère libanais de l'Intérieur a annoncé les résultats définitifs des élections législatives de dimanche. En effet, 103 listes électorales regroupant 718 candidats répartis sur 15 circonscriptions électorales étaient en lice pour désigner en effet, pour obtenir plutôt 128 sièges du Parlement. Selon le ministère libanais de l'Intérieur, le Hezbollah et ses alliés ont remporté 62 sièges et les candidats indépendants ont remporté au moins 13 des 128 sièges de l'Assemblée libanaise. Ce qui montre que, en effet, ces résultats ont laissé le Parlement divisé en plusieurs camps, aucun d'entre eux n'ayant obtenu la majorité absolue. Quant au taux de participation, selon le ministère libanais de l'Intérieur, la participation a atteint plus de 41%. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux ce scrutin législatif au Liban, la perspective de la formation du nouveau Parlement et, bien entendu, l'impact de cette polarisation sur la situation politique et économique au Liban. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors des festivités organisées lundi après-midi dans la ville de Nabatiya, au sud du Liban pour célébrer la victoire foudroyante de la liste électorale du Hezbollah et du mouvement Hamal dans la circonscription sud Liban 3, l'élu Mohammad Raad a adressé une mise en garde aux adversaires du Hezbollah, notamment au parti des forces libanaises de Samir Jaja. Si vous ne voulez pas collaborer avec vos partenaires dans l'enceinte parlementaire, cela veut dire que vous voulez isoler de nouveau et conduire le Liban vers le pire. C'est ce à quoi planifient les Israéliens et les Américains. Faites attention à ne pas être le combustible d'une guerre civile vers laquelle les Israéliens veulent vous conduire dans ce pays, a-t-il dit. Il a ajouté à nos adversaires politiques qui se targuent d'avoir remporté le scrutin, sans preuve à l'appui, nous leur disons, nous vous accepterons en tant qu'adversaires dans l'enceinte parlementaire, mais nous n'admettrons jamais que vous soyez les boucliers des Israéliens et de ceux qui sont derrière eux. En partant de ce principe, faites attention à votre discours, à votre comportement politique et à l'avenir de votre pays. Nous aspirons à l'unité nationale et à la cohabitation. Nous tendons les bras pour sauver notre pays que personne ne peut faire chanter ni faire plier. Si vous voulez être nos partenaires, vous serez les bienvenus. Sinon, faites attention vers où vous allez conduire le pays. La paix civile est une ligne rouge. Ne laissez pas les ennemis et les adversaires de ce pays vous inciter à jouer le jeu de saboter la paix civile. Parce que nous pressentons ceci dans vos positions et les déclarations exprimées par les médiocres parmi vous. Les grands pourraient se tromper, suivre les médiocres à un moment donné. Et de conclure son intervention, nous vous disons encore une fois, ne faites pas de nouveau de mauvais calculs. Soyez sur vos gardes, soyez sur vos gardes. À noter que le député Mohammad Raad, qui a été le chef du bloc parlementaire du Hezbollah entre 2018 et 2022, a obtenu le score le plus important à l'échelle de tout le Liban avec plus de 46 000 voix. Il s'était présenté à la tête d'une liste mixte formée de membres du Hezbollah et du mouvement Hamal dans la circonscription Sud-Liban 3. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, trois autres candidats du Hezbollah dont trois autres circonscriptions électorales ont aussi obtenu le score le plus important en chiffre d'électeurs.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Et depuis Damas avec M. Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. M. Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, toujours un plaisir.
Alors, sur la scène politique libanaise, en apparence, rien n'a bougé. Les résultats montrent un certain statu quo en faveur de la classe politique traditionnelle. En d'autres termes, le Parlement sera constitué par les partis et figures traditionnelles. Alors, quel premier regard, Maître Develay, portez-vous sur ce scrutin législatif au Liban ?
Bien, écoutez, le discours du secrétaire général du Hezbollah, pour moi, résume très bien la situation, c'est-à-dire qu'il prend acte de la recomposition politique, à savoir que la coalition sortante a perdu la majorité au Parlement, bien qu'elle elle reste le groupe, le bloc le plus majoritaire au sein de cette Assemblée. Et à la lumière des défis qui confrontent le Liban, il tend la main et laisse entendre que toutes les partisaneries politiques devraient être mises de côté au nom du bien commun et dans l'intérêt du peuple libanais. Et il met en garde effectivement contre toute instrumentalisation de la recomposition politique qui pourrait servir effectivement les ennemis du Liban et le Liban en a beaucoup. Et voilà, c'est un peu la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, avec une assemblée qui, plus ou moins, peu ou prou, exhibe trois groupes. Donc, comme je l'ai dit, le bloc de la coalition sortante qui, si elle a perdu la majorité institutionnelle au sein du Parlement, reste quand même de manière significative le bloc le plus important. Un bloc opposé, alors qu'on pourrait dire quelque part, qui se satellise autour des forces libanaises de Samir Jaja, dont le parti a gagné 4 voix par rapport à 2018, qui, bon gré mal gré, est quand même perçu comme l'homme des Saoudiens, quoi qu'on puisse en dire, qui a un passé lui-même sulfureux et qui a entretenu une rhétorique extrêmement, on va dire, non productive ces derniers mois, une campagne extrêmement violente dans la rhétorique, avec des violences orchestrées plus ou moins par ses partisans, des provocations. Et malheureusement, on peut penser qu'il n'est pas lui-même autonome, c'est-à-dire qu'en fait, il est financé de l'extérieur et ses financiers attendent de lui certaines actions. Quelles sont ces actions ? On peut penser que ce seront des actions qui auront pour objectif de freiner toute forme d'avancée dans les dossiers les plus importants du pays, en mettant l'accent sur le fait que si ces dossiers ne peuvent pas être traités, cela en revient au fait que la résistance refuse, par exemple, de poser les armes. Donc, malheureusement, je ne suis pas trop optimiste. C'est une situation qui, de manière générale, n'est pas très bonne pour dans n'importe quel pays. Mais dans un pays comme le Liban, où les dossiers en attente sont urgents et méritent une action politique décisive claire, on peut penser que cette espèce de statu quo sans majorité au Parlement des trois blocs, d'un des trois blocs en tout cas, ne peut que mener à de l'immobilisme et du blocage institutionnel.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Develle, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Codabandé. Bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami Maître Develle.
Monsieur le professeur, aucune majorité nette ne s'est dégagée des récentes élections législatives au Liban. Donc là, le Parlement risque d'être plus polarisé que jamais. Le Hezbollah a appelé à la coexistence dans le sens des intérêts du peuple libanais, de l'unité libanaise. Mais comme Maître Develle l'a rappelé, bien sûr, avec Samir Jaja et sa rhétorique contre-productive et violente, est-ce que cette polarisation ne risque pas de provoquer des blocages politiques et de paralyser le Liban ?
Bien sûr que si. Et c'est pour ça que le Liban risque, bien sûr, d'être la proie de troubles, plutôt risque d'être incapable de faire face à des mesures draconiennes, c'est-à-dire des mesures fermes, qui pourraient, disons, diminuer l'impact de la crise économique locale et, disons, faire face, et, disons, entreprendre des mesures, disons, qui soient acceptables. Je crois que là, il y a de la part des adversaires du Hezbollah un déficit patriotique. Je ne dis pas politique, car ils ont l'art politique avec eux, mais ils ont trop de politique, si je puis dire, et pas assez de vue nationale. Est-ce que cela fait... Bien sûr, c'est... Bon, M. Jaja est un client de l'Arabie Saoudite, ça, chacun le sait. En France, beaucoup de gens aussi associent son nom, disons, à ses influences. Influences matérielles, vous voyez, influences locales, matérielles, mais qui n'ont pas, justement, une perspective réellement nationale. Voilà, c'est cela qui fait le malheur du Liban, et dans cette perspective, le discours de M. Nasrallah, disons, est un avertissement, en même temps qu'une maîtrise, qui montre une maîtrise de lui-même. Je trouve que c'est cela qui est remarquable, et un exemple, si je puis dire. Exemple d'accommodement, exemple de vision supérieure, si je puis dire. Il ne cherche pas un petit futur. cherche une stabilisation. Et disons qu'on ne peut que l'approuver, bien sûr. Vous savez, les forces qui sont derrière cela, sont les forces israéliennes, bien sûr. Et elles cherchent, elles, à vivre dans une perpétuelle déstabilisation. Voyez-vous, à en profiter. Elles ne visent pas à construire avec un adversaire. Elles visent à maintenir un certain niveau, disons, d'instabilité, je le répète. Et donc, il faudrait que sur ce national, cette attitude au-dessus des partis. Voyez-vous, nous-mêmes en France, nous avons connu un peu ce problème avec l'ancien régime, la 4e République. Mais évidemment, c'est avec au Liban, les formes ont été encore plus dramatiques. Et malheureusement, moi qui ai connu aussi cette période libanaise de guerre civile, je trouve que il n'y a pas eu de maturité de la part des partis politiques, sauf, disons, le Hezbollah.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, monsieur le professeur. Maître Develay, alors, pour reprendre ce terme de monsieur le professeur d'Ortiguier, ce déficit, en effet, patriotique, qui a été malheureusement illustré par le taux de participation de 41%. Alors, sur le paysage, sur le plan de politique intérieure, il paraît que c'est le danger de la déstabilisation, de la persistance des tensions. Dans quelle mesure, alors, ce déficit patriotique, cette polarisation au Parlement pourrait, en effet, favoriser les ingérences des puissances étrangères oui. qui pourraient, en effet, chercher à pêcher en eau trouble?
La stratégie comme étant la suivante, à savoir que la situation économique présente depuis octobre 2019, qu'il y a eu entre-temps, bien sûr, cette explosion au port de Beyrouth, avec toutes les implications judiciaires que l'on sait, où l'enquête n'avance pas. On sent qu'il y a des coups de téléphone qui sont passés pour essayer de protéger certaines personnes. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien. Quand les juges essayent de faire leur travail, ils sont eux-mêmes réprimandés par leur hiérarchie. Donc, on voit bien un pays qui ne fonctionne pas au sens propre par rapport à ses mécanismes internes. Et la peur, c'est qu'avec une situation de stratégie d'attention et un pourrissement sur la durée, on assiste à un recroquevillement des citoyens sur ce qui fait le Liban, à savoir 18 sectes, hein, donc un repli communautaire. Et cela viendrait bien sûr aux dépens de l'unité nationale. Et c'est ça le vrai danger. Parce que les urgences au quotidien sont là et quelque part, si ce groupe de 13 personnes, Tharwa, qui se présente comme une nouvelle génération, qui veut un peu remettre de l'ordre dans le paysage politique actuel, mais enfin, il ne constitue pas un groupe en tant que tel. Et donc, à un moment donné, parmi ces 13 parlementaires, il y aura des cas de conscience. Et face à des dossiers qui porteront, par exemple, sur des mesures qui viseraient à voir le pays pivoter vers l'Est ou alors au contraire se plier aux injonctions du Fonds monétaire international par exemple et des recommandations du Club de Paris, je pense que c'est sur cette base-là précise que les, dans un premier temps en tout cas, et on l'espère, ça ne sortira pas du cadre parlementaire, mais ces 13 parlementaires ont bien sûr l'objet de pressions et du bloc dirigé par Jaja et de la coalition sortante pour essayer d'obtenir sur certains dossiers les votes nécessaires pour faire passer et avancer l'agenda qui bénéficierait au pays. Et je pense que ça va être une guerre de tous les instants et avec tous les rebondissements que l'on connaît qui caractérisent la scène politique libanaise. En tout cas, voilà, c'est malheureusement une situation à laquelle nous sommes maintenant confrontés et il faudra faire preuve de grande vigilance parce que l'objectif, je pense encore une fois, c'est activer, perpétuer le pourrissement politique de telle sorte que le pays devienne complètement ingouvernable et que les pires démons d'antan ressortent.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur le professeur d'Ortiguier, donc là, sur le plan politique et économique, on assiste à un dysfonctionnement, malheureusement. Toutefois, alors, le Hezbollah, que ce soit au Parlement ou bien sur la scène politique, même militaire et défensive du Liban, reste la carte la plus forte du pays. Ceci étant dit, alors, quelle sera la prochaine étape des pressions occidentales, y compris les États-Unis et la France sur le Liban?
La pression ne peut être que matérielle et monétaire. Elle sera une pression de cet ordre économique. Il y a aussi une deuxième conséquence, c'est une conséquence qui est liée, à notre avis, à la formation même du protectorat du Liban sur la chute de l'Empire ottoman, et à savoir la guerre et la lutte incessante des factions religieuses. C'est-à-dire que, alors que, je me permets de faire cette comparaison, qui n'est pas une idéalisation, mais une réalité, alors que pendant des siècles, au tout au moins 18e, 19e, nous avons eu une certaine relation politique entre les groupes, les communautés, celle-ci s'est perdue au fur et à mesure que le protectorat français s'instaurait, que le mandat anglo-sioniste en Palestine se forgeait, etc. La même chose également en Syrie. Eh bien, je crois que cette décolonisation, c'est le mot peut-être un peu lourd, mais le Liban n'a jamais été entamé, n'a jamais été abordé. Il y avait une possibilité pour les élites libanaises de partir en Afrique, de suivre un peu la colonisation française ou autre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, le Liban est confronté avec ses propres... On dit ses propres démons. Non, la réalité. Il faut une coexistence entre communautés. Cette coexistence, elle a existé pendant des siècles. C'est ce que je veux souligner. Pourquoi n'existe-t-elle plus? Parce que vous avez des gens qui manquent de courage. Et qui manquent de courage, j'explique très bien, dans un État qui sort de la guerre civile, et qui est au bord d'y retourner. Alors, je crois qu'il faudrait que le Liban soit entraîné par un mouvement qui soit extérieur à lui, qui soit propre à l'Orient. Je ne vois pas ce mouvement. La guerre en Syrie dure encore. Et l'entité sioniste, qui paraît toujours balottée entre l'Est et l'Ouest, et tient les deux comme un cocher tient les chevaux, vous voyez. Je crois qu'elle a malheureusement une influence terroriste, disons, sur le pays, terroriste au sens large du terme, à savoir terrorisme personnel, pression morale, financière, etc., sur des élites réelles, et des élites paralysées. Voilà. Et je crois que le premier remède, si je puis dire, pour prétendre médecin, serait que d'autres pays arabes, musulmans, puissent venir au secours du Liban sur le plan politique. Voyez-vous ? Et ceci, je ne le vois pas. Je ne vois que la grande figure du Hezbollah, bien sûr, mais qui elle-même, voyez-vous, n'atteint quand même que, mettons, 40, ne dépasse pas les 50% de la population. Et vous, elle est ferme. Le Hezbollah est très dans lui-même, il est sain à l'intérieur. Il est limité et enchaîné par la peur et l'incapacité politique de notre confession.
Merci encore, Monsieur le professeur d'Ortiguier. Une toute dernière question à Maître Develet. Maître Develet, il paraît donc que alors, les pressions occidentales vont durcir sur le Liban dans le cadre des prétendues réformes économiques. Et on sait très bien, en effet, quelle est la principale raison, en effet, de ces réformes, que ce soit de la part des États-Unis ou surtout de la France, par le biais du Fonds monétaire international ou encore de la Banque mondiale. Mais quant aux évolutions relatives aux tensions entre le Liban et Israël, est-ce que là, il faudrait s'attendre à un nouveau projet, un nouveau scénario de la part du tandem américano-sioniste?
Moi, je pense surtout que nous allons voir une continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent, avec probablement des tentatives répétées à nouveau d'essayer de forcer le Liban à normaliser avec l'entité sioniste en toile de fond la possibilité de comment dirais-je d'avoir accès au forage gazier, parce que quelque part c'est la solution toute trouvée. Le Liban peut devenir un exportateur en termes d'énergie et rembourser ses dettes et ce faisant raffermir sa souveraineté. Le problème, c'est que, de toute évidence, le prix politique à payer est complètement inconcevable. Et donc, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on peut penser que, avec les législatives maintenant derrière nous, la prochaine étape, si je puis dire, de ce durcissement, de ce pourrissement politique, aura pour toile de fond l'élection du président de la République, donc l'année prochaine. On sait que le général Aoun va passer la main, si je puis dire. Et déjà, on peut commencer à distinguer les contours de ce qui s'annonce comme une lutte acharnée. Samir Jaja, en vertu du fait qu'il est devenu, selon lui, le chef de file de la formation chrétienne la plus représentée au Parlement, va probablement essayer de s'appuyer sur la Constitution pour exiger que la présidence lui soit confiée. Nous verrons comment cela va se jouer, puisque de toute façon, pour être élu président, il faut pas seulement compter sur sa base, mais aussi avec des alliances. Et en cela, on peut penser que le président du CPL est lui aussi très bien placé. Maintenant, il a aussi, du côté de la coalition sortante, un prétendant. Le secrétaire général du Hezbollah avait invité les deux putatifs candidats à la présidentielle assimilés à la coalition sortante à venir discuter avec lui il y a quelques semaines. Il s'est bien gardé de donner son aval à l'un ou à l'autre parce qu'il a compris que ce sera de toute façon chaque bataille doit être ou chaque défi doit être géré en son temps, en temps utile. Mais voyez, il y a déjà tous les contours pour un blocage institutionnel, une exacerbation du blocage politique et partant de là, une frustration et une exaspération du peuple libanais. Et il faut se méfier de tout cela.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.
Les États-Unis contribuent-ils à affaiblir le système SWIFT et le dollar? L'hégémonie unilatérale des États-Unis est incontestablement remise en cause par la Russie, qui se dresse contre l'expansion de l'OTAN, dirigée par les États-Unis, afin d'empêcher un nouveau membre potentiel, l'Ukraine, de rejoindre l'alliance militaire occidentale. Cette situation a fait réagir les États-Unis et leurs alliés européens qui ont imposé des sanctions sévères à la Russie depuis 2014, notamment en se servant de la plateforme de communication bancaire SWIFT comme arme, en empêchant les banques russes d'y recourir. Le système SWIFT a pour fonction d'informer les utilisateurs de l'envoi et de l'arrivée des paiements, ce qui contribue à la sécurité des échanges commerciaux internationaux pour le système bancaire international et ses agents. Il n'est toutefois pas censé être utilisé comme arme dans le cadre de conflits entre pays. Les populations du monde sont censées l'utiliser sans égard aux frontières. Cependant, les sanctions américaines qui englobent le système SWIFT contre Cuba, le Venezuela, l'Iran et la Russie, indique clairement au reste du monde qu'il doit trouver d'autres plateformes de communication pour effectuer ces transferts, ce qui contribuera en fait à affaiblir la domination des États-Unis. La Chine et la Russie ont d'ailleurs ouvert la voie à l'affaiblissement du dollar et à la disparition du système SWIFT. Le système SWIFT, qui rend possible en tout temps le transfert d'argent par-delà les frontières, est en fait la clé de voûte de la puissance économique mondiale américaine et occidentale. Créé en 1973 et basé en Belgique, le système SWIFT relie 11 000 banques et institutions financières de plus de 200 pays. Il transmet plus de 40 millions de messages par jour, environ 10 milliards de messages par an, qui permettent à des milliers de milliards de dollars de changer de main entre particuliers, entreprises et gouvernements. Les banques américaines et européennes ont créé le système SWIFT pour garder le contrôle des flux monétaires, empêcher les institutions financières de développer leur propre système et faire en sorte qu'elles ne parviennent pas à une position de monopole. Ni les États-Unis, pas plus que l'Union européenne, ne contrôlent directement le système SWIFT, même s'ils exercent une influence significative sur son organe directeur, qui est en théorie assujetti à la loi belge. Le système est la propriété conjointe de plus de 2000 banques et institutions financières sous la supervision de la Banque nationale de Belgique, en partenariat avec les principales banques centrales du monde, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre. Tous ont laissé l'administration américaine prendre le contrôle du système SWIFT et s'en servir comme arme en radiant toute personne ou tout gouvernement de ce système bancaire de façon à paralyser leurs économies des pays. Les sanctions imposées empêchent les banques exclues d'exécuter les transactions de leurs clients avec des pays, des personnes ou des entreprises étrangères, de remplir leurs obligations, de recevoir des paiements pour les exportations ou de fournir des crédits à court terme pour les importations. En 2015, en réponse aux sanctions américaines et européennes contre l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Russie, pour n'en citer que quelques-uns en 2014, et à la menace de refuser aux institutions financières russes l'accès au système SWIFT, la Chine, voyant venir la menace américaine de son côté, a créé un système de messagerie internationale parallèle appelé CIPS. L'objectif du CIPS est de faciliter l'utilisation du renminbi comme monnaie d'échange internationale et de fournir un niveau de protection contre les sanctions américaines de façon à diminuer la domination mondiale du dollar et à atteindre une dédollarisation globale. La Chine fait la promotion du système CIPS en Asie, en Afrique et en Europe. En fait, plus de 1280 institutions financières dans 103 pays et régions se sont connectées au système CIPS. La monnaie chinoise, le yuan, se fraye un chemin parmi les principales devises et occupe la quatrième place mondiale après la livre sterling, l'euro et le dollar. C'est le partenaire logique de la Russie et de l'Iran en ce moment, deux pays qui étaient et resteront sur la liste des cibles des États-Unis. Lorsque les États-Unis ont mis en pièces l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, même l'Union européenne a commencé à développer son propre système de messagerie financière, à savoir l'instrument de soutien aux échanges commerciaux Instex, pour que les entreprises européennes ne se trouvent pas piégées par les sanctions imposées illégalement par les États-Unis. Bien qu'Instex ne puisse pas protéger les institutions européennes des sanctions américaines, lorsqu'elle traite avec l'Iran et la Russie, il s'agit d'un système qui sera prêt pour une ère meilleure si et quand l'Union européenne parviendra à se libérer de l'actuelle néocolonisation américaine. Les pays qui ont rejeté la domination américaine, comme la Corée du Nord et l'Iran, sont depuis longtemps exclus du système SWIFT, tout comme le Venezuela depuis 2019. Mais les pays dotés de riches ressources naturelles ont tendance à s'adapter et à trouver des moyens de contourner les sanctions, comme l'Iran l'a fait pendant plus de 40 ans.